Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Marguerite Caton, Paloma Soria-Brown, Aliette Ovine et Eliott Baucher. À la réalisation, Anne de Pelchin. À la technique, Jean-Guilain Meige.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Alors que les prix littéraires tombent cette semaine et que Jean-Paul Dubois a remporté le Goncourt, l'économie s'empare de la littérature. Travailler pour la gloire, qu'un sordide gain ne soit jamais l'objet d'un illustre écrivain. Voilà ce que préconisait au XVIIe siècle le poète Nicolas Boileau. C'était avant l'essor du marché du livre et aujourd'hui encore la plupart des romanciers peinent à vivre de leur plume. Alors quelles sont les conditions économiques et sociales de la création littéraire ? Comment les dramaturges et les écrivains ont-ils représenté l'argent et l'échange au cours des siècles ? Et quel point commun entre le mot et la monnaie ? Voilà les questions qui vont nous occuper toute cette semaine. Il est 14h sur France Culture, l'heure d'ouvrir le grand livre d'Entendez-vous l'écho. Nous allons retracer aujourd'hui la généalogie de l'éditeur en compagnie de Sophie de Closet, directrice de Fayard, et de Jean-Yves Mollier, professeur émérite d'histoire contemporaine à l'université de Versailles-Saint-Quentin, auteur d'une autre histoire de l'édition française publiée à La Fabrique. À 14h50, on retrouvera le journal de l'écho présenté comme chaque jour par Xavier Martinet. Bonjour Sophie de Closet et Jean-Yves Mollier.
Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors pour commencer, on va faire un léger détour par le cinéma.
Allô, oui.
Ah, c'est vous. Mais je me disais que j'avais une chance sur 10 de vous trouver à votre bureau à cette heure-ci.
Non, vous aviez 9 chances sur 10. Pendant la période des prix, on travaille presque tous les soirs. C'est dommage que votre livre ne puisse être prêt que pour Noël.
Non, la question n'est pas là.
Je voulais vous dire quelque chose d'important. Plus ce livre devient concret, plus je suis inquiet.
Mais enfin, je vous assure, tout le monde l'adore, ce livre.
Mais ça m'est égal. Enfin, non, ça me fait plaisir. Ce que je voulais vous dire est confidentiel, mais j'ai confiance en vous. Il se passe une chose incroyable. Je me rends compte seulement maintenant que ce livre a été écrit à cause d'une femme précise, et que cette femme n'est même pas nommée
dans le livre. Il faut que je reprenne le manuscrit, que je recommence tout.
Ah non, ne me faites pas ça. Je me suis battue pour ce livre. Alors écoutez-moi bien. Je travaille dans l'édition depuis bientôt 10 ans. Je connais les écrivains. Ils ressentent tous cette angoisse d'être passés à côté de l'essentiel. C'est normal. On veut écrire un livre et on en écrit un autre. Si cette femme dont vous parlez a compté tellement pour vous, consacrez-lui votre deuxième livre.
Voilà, vous avez peut-être reconnu cet extrait de L'homme qui aimait les femmes de François Truffaut, sorti en 1977. Le personnage principal, Bertrand, téléphone à son éditrice, incarnée par Brigitte Fossé, alors qu'il traverse un moment de doute. Sophie de Closet, vous vous reconnaissez dans cette éditrice et dans les conseils qu'elle prodigue à cet écrivain ?
Je reconnais en tout cas son rôle, qui est d'accompagner l'auteur, de le rassurer, parce que c'est sûr que l'expérience de publication, d'écriture, puis de publication d'un livre est une expérience incroyablement anxiogène pour tous les auteurs, et puis à la fois tout à fait nouvelle, même s'ils ont écrit énormément de livres et qu'ils ont des grandes bibliographies, à chaque fois c'est une angoisse nouvelle qui les saisit, comme si c'était le premier, et pour l'éditeur, même s'il a l'habitude, à chaque fois c'est un prototype, et à chaque fois les choses se reposent de façon tout à fait différente et tout à fait semblable. Donc alors, oui, en tout cas, une relation de confiance et d'accompagnement, c'est sûr que c'est le fondement du métier de l'éditeur.
Alors on va voir en tout cas comment ce métier d'éditeur s'est transformé depuis son apparition à la fin du XVIIIe siècle. Mais d'abord, il faut peut-être définir ce qu'est un éditeur, Jean-Yves Mollier. Et peut-être, vous pouvez nous expliquer à partir de quand ce terme apparaît dans la langue française.
Alors le terme n'apparaît qu'au tout début du XIXe siècle, dans les années 1830. Il entre au dictionnaire de l'Académie à peu près en 1835. Il apparaît en littérature avec Illusion perdue de Balzac, avec le personnage de Doria, qui est juste situé par Balzac, à côté d'un éditeur réel, à savoir l'advocat. On peut remonter un petit peu auparavant avec l'un des pères de l'encyclopédie, pas de la première édition, mais de la réédition, à savoir Charles-Joseph Panckoucke. Il est né en 1736, il mourra en 1798 pour le situer. C'est véritablement un éditeur au sens où il est à la fois un libraire d'Ancien Régime, avec beaucoup de caractéristiques, mais il va mourir à la tâche. C'est-à-dire qu'une fois fortune faite, à la différence des premiers libraires de l'encyclopédie, il ne se retire pas pour jouir de ses rentes. Au fond, Il a tous les attributs de l'entrepreneur schumpeterien qu'on a défini au XXe siècle. Simplement, le mot n'existait pas, mais la chose préexistait au mot.
Ce que vous nous dites, Jean-Yves Mollier, c'est que finalement, le métier d'éditeur apparaît véritablement au moment où il se distingue de celui d'imprimeur ?
D'imprimeur et de libraire. Bien sûr, il va demeurer au XIXe siècle et même au XXe siècle des éditeurs qui peuvent être en même temps imprimeurs et libraires. Mais globalement, leur métier, c'est transporter. C'est un métier de médiation entre le public et les écrivains. Contrairement à ce que croient y compris beaucoup d'auteurs, un auteur n'écrit jamais de livre. Un poète écrit des poèmes, un dramaturge écrit des pièces de théâtre, un romancier écrit des romans. C'est l'éditeur qui transforme le texte véritablement en livre. Ça veut dire que l'éditeur n'est éditeur que s'il opère un véritable travail. En termes économiques, on dira s'il apporte une plus-value, c'est-à-dire quelque chose qui n'existait pas quand on lui a remis le manuscrit et qui va exister au moment où le public va lui acheter le livre et le découvrir. C'est donc véritablement un travail, même si ça peut paraître, on est là le jour de la remise des grands prix, ça peut paraître non romantique de dire que l'auteur n'a pas apporté le, disons que le manuscrit qui a été apporté n'est pas exactement ce qui a été transformé en livre. Mais c'est la réalité parce que le manuscrit aurait encore bien des imperfections s'il n'avait pas été travaillé, bien sûr, d'un commun accord entre ce que les anglo-saxons appellent l'éditeur, directeur de collection, directeur littéraire, on peut lui donner tous les noms, et l'auteur lui-même.
Sophie de Closet, quelle serait votre définition à vous de l'éditeur? Comment vous définiriez votre propre métier?
Je pense que Jean-Yves Mollier a bien décrit le métier, l'intermédiation, le métier de passeur. En effet, on peut pas écrire les livres à la place des auteurs, on peut pas les acheter à la place des lecteurs, mais on peut et on doit s'efforcer de faire tout ce qu'on peut entre les deux pour que cette rencontre ait lieu et qu'elle soit la plus fructueuse, la plus belle et la plus longue possible. C'est-à-dire que même quand un texte ne nécessite pas, parce que ça arrive, un gros travail d'édition et de retravail, fabriquer à partir d'un texte un livre, en faire un objet potentiellement de désir, le mettre de façon dans toutes les librairies, les lieux de vente, de telle sorte qu'il soit diffusé, qu'il ait une exploitation continue et longue, faire savoir qu'il existe, tout ça est en effet un travail, et le travail de la maison d'édition, au-delà de l'éditeur, de tous les services, de toute l'équipe qui se met au service des livres.
Et comme vous le disiez, Jean-Yves Mollier, c'est un travail qui s'est précisé peu à peu. Vous avez cité ce personnage important de Charles-Joseph Pankouk, qui est donc l'un des premiers éditeurs à la fin du XVIIIe siècle à mettre au point une stratégie pour augmenter le nombre de lecteurs. En quoi consiste sa stratégie?
Alors, si vous voulez, la deuxième définition que je donnerais de l'éditeur, c'est que c'est un homme double, pour reprendre une classification qu'a proposée Christophe Charles. C'est un homme qui est à la fois dans le ferment et dans la marchandise. Et là, je reprends les deux critères de Lucien Febvre lorsqu'il demandait à Henri-Jean Martin d'écrire ce qui est devenu l'apparition du livre. Un livre, c'est bien entendu une marchandise, ça relève donc d'opérations techniques, financières, commerciales, mais un livre n'est pas que cela, ou alors c'est pas même pas la peine de l'acheter et de le lire. C'est un ferment, c'est-à-dire qu'on y trouve quelque chose. Et c'est donc dans cette intermédiation entre la marchandise et le ferment que l'éditeur authentique va véritablement travailler et trouver à s'employer. Alors, on a parlé de Pankouk. On peut aller directement jusqu'à Gaston Gallimard. Il y a un véritable continuum et on va intégrer Gervais Charpentier, Michel Lévy et bien d'autres, Bernard Grasset au XXe siècle, jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire des hommes qui sont à la fois des chefs d'entreprise, incontestablement, qui ont l'ambition de devenir des entrepreneurs puissants et même de concurrencer et même de passer devant leurs concurrents ou leurs adversaires, mais ils n'ont pas cette seule ambition. Ils veulent laisser un nom. Ce sont souvent des amateurs d'art, des hommes férus de peinture, de musique. Il y a tout un ensemble de dispositions, dirait Pierre Bourdieu, qui les prédispose en quelque sorte à rencontrer l'œuvre qui va plaire au public.
Mais cette double ambition, c'est ce qui fait aussi toute la complexité du métier, à la fois rechercher une pépite littéraire, Sophie de Closet, et en même temps assurer une rentabilité commerciale.
Oui, on est géomètre et saltimbanque. Et c'est en effet la façon dont on combine et dont on conjugue ces deux parties indissociables du métier qui permet d'avancer. Ensuite, les deux se rencontrent, c'est-à-dire que sans le côté saltimbanque, c'est-à-dire la prise de risque, l'écoute des écrivains, les coups de cœur, les enthousiasmes, on n'arrive pas à avoir des succès non plus. Et bon nombre d'auteurs qui ont connu des ventes importantes ont commencé tout petit et ont construit une œuvre, ont construit une rencontre avec le public au fil du temps. C'est donc ce métier aussi de long terme qui est pour moi passionnant. C'est-à-dire que la prise de risque économique pour publier un livre, elle n'est pas très grande. C'est aussi ça qui explique en partie le fait qu'il y a eu une explosion de la production. Mais à partir du moment où le livre est rentabilisé, là, il dégage plus de profits, d'où la péréquation, où en fait on estime généralement qu'on publie 8 livres à perte pour 2 livres qui gagnent. Donc on essaye de maintenir cet équilibre.
Si vous permettez, c'est intéressant ce que dit Sophie de Closet.
Merci Jean.
Je ne sais pas si elle l'a fait exprès, mais elle a repris très exactement la lettre sur le commerce de la librairie de Denis Diderot, rédigée en 1763. Dans cette fameuse lettre, Denis Diderot explique que sur 10 livres, un seul dégagera du bénéfice. 4 couvriront à peu près leurs frais et 5 coûteront de l'argent à celui qu'il appelle le libraire, que nous appelons nous l'éditeur. Cette loi empirique, bien entendu, elle n'a pas changé.
Non.
Elle a connu de très petites variations, même si certains éditeurs, et notamment dans des groupes qui sont plus financiers qu'industriels, voudraient bien, au fond, connaître la pierre philosophale pour ne produire que des livres best-sellers, que des blockbusters qui leur rapporteraient évidemment des pépites à chaque instant.
Une loi qui s'est vérifiée dans l'histoire, mais peut-être pas dans la première moitié du 19e siècle, Jean-Yves Mollier, parce que c'est une période qui suit donc la révolution de 89 qui va bouleverser le monde des libraires. Et à ce moment-là, il y a un certain nombre de maisons d'édition qui vont se créer et qui vont péricliter.
Oui, mais si vous voulez, si vous prenez les chiffres, ça demeure vrai aujourd'hui. Pour 10 maisons qui vont se créer au moment où nous parlons, donc en 2019, la plupart d'entre elles, c'est-à-dire 8 ou 9, vont disparaître dans les 5 ans à venir. Donc le risque, en effet, mais d'ailleurs ça n'est pas vrai que de l'édition, c'est vrai aussi d'autres secteurs commerciaux. Donc il y a en effet un risque considérable. Au début du 19e siècle, compte tenu des bouleversements qui suivent la Révolution, et puis on est à la période de l'édition romantique, où effectivement, un certain nombre de grands libraires éditeurs vont prendre des risques et s'écrouler. Mais au fond, il y a deux manières d'écrire l'histoire. L'écrire à la manière des vainqueurs, on y est presque obligé, nous historiens, parce qu'il y a plus de traces des vainqueurs que des vaincus. Et nous savons bien que travailler sur les paysans du Moyen-Âge, c'est infiniment plus difficile que de travailler sur les rois ou sur les troubadours du Moyen-Âge. Bon, c'est la difficulté. Mais on doit prendre en compte, en effet, l'histoire de l'échec parce qu'elle est aussi instructive que l'histoire de la réussite.
Et pour bien saisir cette figure de l'éditeur au XIXe siècle, il faut voir comment en parlent les écrivains à l'époque. Je vous propose d'écouter une lecture des Illusions perdues de Balzac. Le jeune Lucien a quitté Angoulême pour conquérir la gloire littéraire à Paris. Il tente de faire publier son roman historique L'Archer de Charles IX et son éditeur De Gros justifie les tarifs particulièrement bas qu'il lui propose.
Vous ne connaissez pas les affaires, monsieur. En publiant le premier roman d'un auteur, un éditeur doit risquer 1600 francs d'impression et de papier. Il est plus facile de faire un roman que de trouver une pareille somme. J'ai 100 manuscrits de romans chez moi et n'ai pas 160 000 francs dans ma caisse. Hélas, je n'ai pas gagné cette somme depuis 20 ans que je suis libraire. On ne fait donc pas fortune au métier d'imprimer des romans. Là où vous risquez votre temps, je dois, moi, débourser 2000 francs. Si nous sommes trompés, car abens sua fata libelli, je perds 2000 francs. Quant à vous, vous n'avez qu'à lancer une ode contre la stupidité publique. Après avoir médité sur ce que j'ai l'honneur de vous dire, vous viendrez me revoir. Loin de trouver un libraire qui veuille risquer 2000 francs pour un jeune inconnu, vous ne trouverez pas un commis qui se donne la peine de lire votre griffonnage. Si vous n'aviez pas du talent, de l'avenir, si je ne m'intéressais pas aux jeunes gens studieux, je ne vous aurais pas proposé de si belles conditions. 100 francs par mois, songez-y. Après tout, un roman dans un tiroir, ce n'est pas comme un cheval à l'écurie. Ça ne mange pas de pain. À la vérité, ça n'en donne pas non plus.
Sophie de Closet, que vous inspire cet extrait, lu ici par Xavier Martinet de l'équipe d'Entendez-vous l'écho ?
Bah, à la fois, il me fait sourire. Je suis pas vraiment sûre qu'on. Enfin, moi, j'ai jamais parlé de griffonnage. J'imagine la tête de l'auteur à qui on dirait que son griffonnage ne lui coûte pas de pain, mais ne va pas le faire manger non plus. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a une disproportion entre l'investissement personnel, le talent, le génie parfois, le travail toujours qu'un écrivain met dans son livre et la rémunération première qu'il en reçoit quand on lui propose un contrat, qui n'est absolument pas à la hauteur. Si on divise la valeur au temps horaire qu'il a fallu pour passer le livre, en effet, c'est à pleurer. Ensuite, la valeur, il est une prise de risque de l'éditeur, et en ça je reconnais ce discours, qui est à valoir justement sur les ventes du livre. Donc c'est les auteurs généralement se fixent sur les avaloirs, et ils ont raison, qui leur sont garantis, et assez peu sur les pourcentages qu'ils ont sur leurs ventes. Mais s'ils pensent, comme l'éditeur, que leur livre est promis à un succès certain, dans ce cas-là, ils ont une rémunération proportionnelle. Depuis Beaumarchais, c'est le droit d'auteur, et c'est très bien comme ça, et c'est fondamental, et très attaqué aujourd'hui sur les ventes de leurs livres.
Ce qu'on peut dire, Jean-Yves Mollier, c'est que l'histoire du marché du livre, c'est aussi l'histoire d'un rapport de force entre éditeur et écrivain.
Oui, bien entendu. Charles Baudelaire, lorsqu'il écrit à son éditeur Michel Lévy, lui dit « Il y a deux hommes en vous. Il y a le parfait homme du monde avec qui j'aime converser, et puis il y a l'homme d'affaires hérissé dès qu'on lui parle d'argent. » Il a tout dit. C'est-à-dire que le poète a envie de rencontrer l'éditeur dans lequel il croit, avec qui il peut parler littérature, opéra, musique, etc. Et puis, il ne sait pas parler d'argent. Je vais prendre un deuxième exemple. Flaubert est incapable de discuter dans un rapport de force avec son éditeur Michel Lévy, ce que fait très bien George Sand. Donc, quand il a un nouveau contrat signé, il passe par George Sand. Elle est carrée en affaires. Elle va directement au but. Elle dit à Michel Lévy, je veux tant. Et mon copain Flaubert, il veut tant. Alors ça se passe beaucoup mieux. Bien sûr qu'il y a un rapport de force. Lisez toutes les correspondances d'écrivains avec leur éditeur Gaston Gallimard, publiées précisément chez Gallimard. Vous allez voir Céline, vous allez voir Giono, comment ils traitent Gaston Gallimard, de tous les noms, de Macro, etc.
Mais c'est un rapport de force qui va évoluer, notamment avec le fait qu'à partir de la seconde moitié du 19e siècle, on va observer d'un côté certaines spécialisations dans le monde de l'édition, et en même temps l'arrivée de plus en plus de grands éditeurs industriels.
Bien sûr, mais peut-être ce qu'il faut bien comprendre, c'est que avant le 18e siècle, au fond, l'écrivain a un mécène, ou bien il est le client d'un duc, d'un pair. C'est ce qui explique que lorsque au collège on vous fait étudier des pièces de théâtre, c'est précédé d'une préface au duc de ceci, au roi, au prince, etc. Ce système a disparu au fond avec la Révolution française. Donc il n'y a plus qu'un rapport marchand, en effet. L'écrivain, s'il veut vivre de sa plume à la manière de Zola ou à la manière de George Sand, il doit nécessairement discuter marchandises, argent, rémunération. Restons un instant sur l'exemple de George Sand. Elle préfère le salariat, ça peut paraître étonnant. Elle dit à son éditeur, versez-moi tous les mois l'équivalent d'un salaire. Ça me permet de gérer ma propriété de Nohant et de savoir exactement ce sur quoi je peux compter. Et bien sûr, en fin d'année, on fait la balance des comptes, vous me devez de l'argent ou bien c'est moi qui vous en dois, et puis on règle l'ensemble. Vous voyez, c'est ça peut-être la difficulté à comprendre, c'est qu'au fond, l'auteur et notamment le romancier, puisque là on ne parle que de littérature, le romancier ou le poète ou le dramaturge, il vit dans un monde qui est celui véritablement de la création. Mais en même temps, il a besoin de manger, il a besoin de payer son loyer. Donc il doit passer par des réalités triviales.
Des réalités triviales et en parallèle, on voit donc ces maisons d'édition de plus en plus importantes qui se créent au 19e siècle. La maison d'édition que vous dirigez aujourd'hui, Sophie de Closet, a été fondée en 1857 par Jean-François Artème Fayard. Est-ce que vous pouvez nous rappeler dans quelles circonstances elle est créée en ce milieu du 19e siècle ?
Jean-Yves Mollier, de fait, rappellerait mieux le contexte, ce contexte de prolifération et de mise à disposition de l'écrit, où en effet, de nombreuses maisons d'édition se créent et où ce jeune Artème Fayard, lui, a le souci très tôt de mettre à la disposition du plus grand nombre des publications, de créer des collections assez populaires, des livres, le livre de demain, des études historiques, mais aussi des livres à petit prix. Et en tout cas, ce souci de diffuser, d'être un peu disruptif par rapport, pour employer un terme à la mode, par rapport aux pratiques de l'époque et d'aller vers une diffusion la plus large possible qui va bien dans le sens de la généralisation de l'écrit que Jean-Yves Mollier a fort bien étudié et décrit dans ses livres. C'est dans ce contexte-là que s'inscrit la création de la librairie Artem Fayard.
Si vous me permettez, l'exemple Jean-Yves de Fayard est d'autant plus intéressant que le premier Fayard, il y a eu deux Artem, le fils aîné s'appelait également Artem. Le premier, il a fait deux fois faillite. Il a donc connu les difficultés, mais il a recommencé. Il a démarré en popularisant les œuvres de Béranger, un chansonnier bien oublié aujourd'hui, mais très populaire à l'époque. Son fils, Artem de Fayard, si l'on veut, lui démarre en 1895, donc 40 ans à peu près après son père, et il va lancer 10 ans plus tard le Livre Populaire, une collection de livres à très bon marché, à 0,65 francs, l'équivalent peut-être de 2,50 € ou 3 € d'aujourd'hui.
C'est lui qui fait vraiment entrer l'édition française dans l'ère de la production de masse.
Oui, avec Flammarion et la collection d'auteurs célèbres, ce sont véritablement, et puis Ferenczi, Rouff et quelques autres, ce sont les éditeurs qui ont fait véritablement entrer l'édition dans la production de masse. Entendons-nous, production de masse, c'est bien plus important qu'aujourd'hui. Tirage initial systématique du Livre Populaire, la collection, 50 000 exemplaires. Quand ça n'est pas 100 000 exemplaires. Aucun éditeur, Sophie, aujourd'hui, ne prendrait le risque de lancer une collection avec des livres tirés systématiquement à 50 000 exemplaires.
Non, mais on peut les réimprimer en 2-3 jours.
Bien sûr.
Ce n'est évidemment pas le cas, ce qui fait qu'on peut avoir une prise de risque, une estimation des tirages qui est beaucoup plus ajustée et des stocks beaucoup plus ajustés. Parce qu'on a aujourd'hui les moyens techniques de les réimprimer extrêmement vite.
Et c'est une émergence qu'il faut peut-être aussi mettre en lien avec l'éclosion de la presse populaire aussi, à la fin du 19e siècle. La presse populaire a un sou, Jean-Yves Mollier.
Alors la presse populaire, elle a eu deux incidences sur le monde du livre. Revenons un peu en arrière. Première incidence, au milieu des années 1830, lorsque le roman devient le moteur de la presse quotidienne. C'est-à-dire que pour gagner de l'argent, quand on est éditeur d'un journal, il faut absolument publier des romans. C'est la pré-publication, c'est le rez-de-chaussée du quotidien. Le feuilleton, le roman, envahit la case qu'on appelle le feuilleton. Et d'ailleurs, ça va donner naissance à un genre, le roman feuilleton. À partir du milieu des années 1830, des écrivains comme Balzac et Alexandre Dumas modifient leur écriture. Ils écrivent véritablement pour être pré-publiés dans le journal et passer ensuite en librairie. Alors, le deuxième temps, c'est bien sûr la presse populaire à un sou. Là, c'est après 1863 et la création du Petit Journal. Dans les 30 à 40 années qui suivent, les Français se précipitent sur le journal. Pour qu'on comprenne bien, à la veille de la Première Guerre mondiale, on vend chaque jour presque 10 millions de quotidiens. Dans une France de 40 millions d'habitants. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on vendrait 15 millions de Monde, Libération, L'Humanité, La Croix, tout ce que vous voulez. Le Figaro, pour n'oublier personne, c'est impensable aujourd'hui parce que nous avons télévision, internet, cinéma. Donc, on n'est plus dans ce rapport privilégié à l'écrit qui était celui de l'homme et de la femme du 19e siècle.
Il y a désormais une importante concurrence à l'écrit, en effet. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que dès le 19e siècle, il y a parmi les éditeurs une course au prix littéraire qui apparaît déjà à ce moment-là. Qu'en est-il aujourd'hui? On l'a dit, le prix Goncourt attribué donc à Jean-Paul Dubois, le Renaudot à Sylvain Tesson. Jusqu'à quel point cette reconnaissance par les prix littéraires est importante pour les éditeurs, Sophie de Closet?
Elle est importante pour une catégorie de la production qui est la catégorie des romans littéraires qui sont publiés au moment de la rentrée littéraire, qui est une particularité française qui ne cesse d'étonner nos voisins qui nous disent donc en fait votre super idée c'est de publier en moyenne 600 romans, ce que vous estimez être le meilleur de votre production, à un moment où les gens rentrent de vacances donc ils n'ont plus le temps de lire et de le faire tous en même temps, et ça vous paraît donc une idée qui n'a pas été exportée jusqu'à présent.
Vous-même, vous trouvez que c'est une mauvaise idée?
On n'a pas le choix. Et en fait, ce sont les prix qui sont remis cette semaine qui justifient le fait qu'on s'acharne tous à publier des livres entre le 15 août et le 15 septembre d'une manière folle. Ça paraîtrait, dans un monde rationnel, logique de les publier par exemple en juin avant les 2 mois d'été pendant lesquels on sait que les gens vont consacrer beaucoup de temps à lire. Et en fait, ce sont les journalistes et on est ravis qu'ils lisent beaucoup pendant l'été et qui ensuite consacrent beaucoup plus de pages, et c'est formidable, que d'habitude dans leurs journaux aux romans au moment de la rentrée, et lesquels, livres de la rentrée, peuvent se vendre. Là, ça va être le cas des livres qui ont les prix jusqu'à Noël et au-delà, et c'est formidable ainsi. Donc oui, pour une partie, en tout cas, de la production, c'est sûr que les prix d'automne et leur calendrier orientent beaucoup le métier d'éditeur.
Jean-Yves Vollier, sur la rentrée littéraire ou sur les prix littéraires ?
On va l'illustrer avec une pièce d'Édouard Bourdet, 1927, vient de paraître. Dans cette pièce, on voit deux éditeurs, Gallimard et Grasset, bien sûr, ils ont un nom d'emprunt, qui se déchirent pour obtenir les prix. Les prix sont donc nés, je parle des prix modernes, le Goncourt en 1903, le Renaudot en 1904, etc. Et ça a suivi avec le Femina Médicis. 1927, on est donc 20 ans plus tard, les prix se sont imposés. Aucun éditeur, comme vient de le dire Sophie de Closet, quoi qu'il en pense, quoi qu'il pense profondément des prix littéraires, ne peut ne pas être présent dans cette compétition. Parce que cela devient synonyme, effectivement, d'un tirage qui devient de plus en plus important. On voit même un éditeur comme Bernard Grasset, quand il n'a pas le prix Goncourt, faire imprimer un bandeau le livre qui a failli obtenir le prix Goncourt. Et il sera condamné par les tribunaux parce que, naturellement, c'est une concurrence déloyale. On est dans un système médiatique. Qu'on le veuille ou non, le prix Goncourt, c'est autour de 400 000 exemplaires et ça peut monter à 700 000 ou 1 million, comme avec L'Amant de Marguerite Duras. Le Renaudot, c'est un peu moins, mais quand même, c'est au-dessus de 100 000 exemplaires. Le Goncourt des lycéens, c'est 350 000 exemplaires. Donc, on voit bien qu'on est dans un système où, effectivement, le fait qu'un écrivain, car en principe, les prix ne récompensent pas les éditeurs, mais un écrivain, le fait même que cela existe fait que l'éditeur ne peut pas se désintéresser. Et que donc, dans le passé, je l'ai prouvé dans un certain nombre de mes livres en publiant des lettres, notamment de Gaston Gallimard, certains éditeurs tentent évidemment de fausser le jeu en obtenant par tout un système de récompenses, de prébendes, tout ce que vous voulez, eh bien de tenir en main un certain nombre de jurés pour s'assurer ou presque que le résultat leur sera favorable.
Alors vous parlez de la création de ces prix littéraires au début du XXe siècle, justement, avançons un petit peu dans notre histoire de l'édition. Au milieu du XXe siècle, l'Empire Hachette notamment va se déployer grâce au rachat de titres de presse et de nombreuses éditions, maisons d'édition. Pardon, c'est un moment véritablement où Hachette va faire fortune grâce au lancement du livre de poche en 1953, Jean-Yves Vollier.
Il faut revenir en arrière et quelques dates. 1826, un jeune normalien, un brillant intellectuel qui veut être professeur de faculté, doit changer de métier parce qu'on a fermé l'école normale supérieure et que pour les jurys d'agrégation, on a nommé des ecclésiastiques qui ont l'ordre de ne pas les recevoir. Donc, il change de métier, il se réoriente. Qu'est-ce qu'il sait faire ? Ben, il s'y connaît bien en livres. Alors, il choisit d'être libraire. Pendant 25 ans, il ne fait que du livre scolaire. Mais en 1851, il décide de modifier sa stratégie et de publier des romans. Pourquoi ? Parce qu'il est devenu distributeur et diffuseur. En effet, il vient de créer ce qu'il appelle des bibliothèques de gare, ce que nous appelons des kiosques ou des relais aujourd'hui. C'est la deuxième date. Troisième date, 1897, il rachète des messageries et il devient véritablement un diffuseur. Donc il est à la fois éditeur, il est diffuseur, il est distributeur, il domine toute la chaîne des métiers du livre. Alors au XXe siècle, il va reprendre, enfin lui, c'est-à-dire la maison d'édition qu'il a créée, avec à la fois ses descendants, mais aussi tous les actionnaires, dont la Banque de Paris et des Pays-Bas, qui longtemps a été l'actionnaire de référence. Aujourd'hui, on le sait bien, c'est la famille Lagardère. Donc, les descendants et puis les nouveaux actionnaires vont essayer d'étoffer cet empire.
C'est un premier mouvement de concentration dans le secteur de l'édition.
À la fois.
Ces années 50-60.
Horizontal et vertical, avec effectivement, en 1953, quelque chose qui est absolument phénoménal et très important aujourd'hui, le lancement du livre de poche sous sa version moderne. Il y avait eu déjà des livres de poche antérieurs, mais avec la LGF qui existe toujours, cette sorte de coopérative qui publie des romans de tous les éditeurs sous le label LGF.
Qui est donc une filiale de Hachette.
Qui est une filiale de Hachette. Aujourd'hui, filiale d'ailleurs en partie avec Albin Michel, il y a une association. C'est évidemment la vente de millions et de millions de livres.
Et c'est une révolution. Aujourd'hui, on constate, Sophie de Closet, que c'est toujours le livre de poche en partie qui tire la croissance des ventes de livres.
Oui, en effet, il y a une démultiplication au moment du passage en poche qui offre généralement une deuxième vie au livre. Et comme la plupart des lecteurs savent que les livres, il faut attendre en gros un an avant qu'ils passent en poche à prix réduit, certains reportent leur achat. Et d'ailleurs, je crois que c'est une pratique qu'on fait tous pour attendre de l'avoir en poche, pour prendre un risque économique moindre et pouvoir acheter plus de livres. Donc oui, notamment en fiction, on se rend compte qu'on vend souvent deux fois plus de livres de poche qu'on a vendus de grand format. En non-fiction, c'est plutôt l'inverse.
Et sur ce phénomène de concentration, le fait que Fayard rejoigne Hachette en 1958, est-ce que ça a entraîné une plus grande spécialisation de Fayard ?
Non, pas vraiment. Enfin, la ligne éditoriale de la maison a pas exactement varié. En tout cas, il n'y a jamais eu, à ma connaissance, en tout cas depuis que je peux en témoigner, d'indications particulières du groupe Hachette pour ces différentes filiales, ces différentes maisons d'édition, pour les spécialiser ou leur dire faut pas publier ci, faut publier ça, etc. C'est pas du tout dans l'ADN de ce groupe.
Mais ce modèle du livre de poche va en tout cas être imité par d'autres maisons d'édition dans les mêmes années, Jean-Yves Mollier.
Oui, mais restons un instant effectivement sur ce phénomène de concentration. En effet, c'est une particularité dans le monde de l'édition, le fait que les filiales, donc les entreprises, quand elles sont rachetées, ne perdent pas leur identité. C'est sans doute un des rares secteurs de l'économie où il y a cette quasi-nécessité pour le repreneur de conserver au label son identité parce que tout simplement, les lecteurs ne suivent pas si on ne fait pas cela. Donc il y a eu quelques exemples qui ont été contre-productifs et par conséquent, on a fait autre chose. Alors le livre de poche, sortons un peu du roman, au moins pendant quelques instants. En effet, un des problèmes aujourd'hui, c'est que les jeunes notamment, et les étudiants que je connais bien, puisque j'en ai eu beaucoup dans mon université et dans les autres, n'achètent plus de livres dans l'édition originale. Ils n'en ont pas les moyens. Donc ils se reportent directement sur le livre de poche. Et ça, ce phénomène a l'avantage, bien sûr, pour les éditeurs du livre de poche, mais l'immense inconvénient pour les autres éditeurs de ne pas pouvoir vendre en édition originale à un prix plus élevé, des travaux de recherche, des travaux qui demandent par conséquent un investissement plus grand.
Ça soulève beaucoup de questions ce que vous dites Jean-Yves Mollier, et on va voir que le secteur de l'édition va poursuivre ce phénomène de concentration dans les années 80-90, et aussi le fait que le livre de poche va susciter un certain nombre de résistances, on en parle dans un instant.
J'ai un bien étrange pouvoir, mais n'est-ce pas une malédiction ? Cela a commencé un soir, j'avais à peine l'âge de raison. J'étais plongé dans un roman de la bibliothèque rose. Quand j'ai vu qu'il y avait des gens avec moi dans la chambre close. Qui donc pouvaient être ces gosses, cette invasion de petites filles? Que me voulaient ces carabosses qui leur tenaient lieu de famille? J'ai vite compris à leurs manières, à leurs habits d'un autre temps, que ces visiteurs de mystère étaient sortis de mon roman. Ils jacassent à voix basse dès que j'ouvre mon bouquin. Je délivre de leurs livres des héros, des vauriens qui surgissent, m'envahissent, se vautrent sur mes coussins, qui s'étalent et déballent d'un jeu sale et chagrin. Ils me choquent, m'interloquent et me prennent à témoin de leurs vices, leurs malices, de leurs drôles de destin. Mauvais rêve qui s'achève dès que je lis le mot fin. À voix basse, ils s'effacent quand je ferme le bouquin. À voix basse, ils s'effacent quand je ferme le bouquin. Depuis, dès que mes yeux se posent entre les lignes, entre les pages, mêmes effets, mêmes causes, je fais surgir les personnages. Pour mon malheur, je lis beaucoup et c'est risqué, je le sais bien. Mes hôtes peuvent aussi être fous, ou dangereux, ou assassins. J'ai fui devant des créatures, repoussé quelques décadents, échappé de peu aux morsures d'un vieux roumain extravagant. J'évite de lire tant qu'à faire les dépravés, les malades, les histoires de serial killers, les œuvres du marquis de Sade. Ils jacassent à voix basse dès que j'ouvre mon bouquin. Je délivre de leurs livres des héros ou des vauriens qui surgissent, m'envahissent, se vautrent sur mes coussins, qui s'étalent et déballent linge sale et chagrin. Ils me choquent, m'interloquent et me prennent à témoin de leurs vices, leurs malices, de leurs drôles de destin. Mauvais rêve qui s'achève dès que je lis le mot fin. À voix basse, ils s'effacent quand je ferme le bouquin. À voix basse, ils s'effacent quand je ferme le bouquin.
Vous écoutez À voix basse de Juliette sur France Culture, dans Entendez-vous l'écho. La directrice de Fayard, Sophie de Closet, et l'historien Jean-Yves Mollier sont toujours avec nous pour parler de la figure de l'éditeur.
Vous voyez donc appartenir à une aristocratie des lecteurs?
Oui, bien sûr. Enfin, bien sûr, je ne sais pas si j'y appartiens. Je suis persuadé qu'il faut une aristocratie des lecteurs.
Que pensez-vous du livre de poche?
Beaucoup de mal.
Pourquoi?
Parce que ça a fait lire un tas de gens qui n'avaient pas besoin de lire, finalement, qui n'avaient jamais ressenti le besoin de lire. On les a amenés là, on leur a, avant ils lisaient Nous deux ou La vie en fleurs, et d'un seul coup ils se sont retrouvés avec Sartre dans les mains. Ce qui leur a donné une espèce de prétention intellectuelle qu'ils n'avaient pas. C'est-à-dire que les gens étaient humbles devant finalement la littérature, alors que maintenant ils se permettent de la prendre de haut. Les gens ont acquis le droit de mépris maintenant, ce qu'ils n'avaient pas avant.
Voilà, une archivina de 1964. Alors Jean-Yves Mollier, c'est évidemment un son qui étonne un peu aujourd'hui, mais est-ce qu'on peut se replacer dans cette époque et comprendre les réticences réelles que suscite alors le livre de poche ?
Le livre de poche, 10 ans après donc son démarrage en 1953, suscite un véritable débat qui est lancé par les Lettres françaises, qui est repris ensuite par le Mercure de France et relayé par les Temps modernes. On a oublié la première revue qui a lancé une enquête auprès des lecteurs pour savoir ce qu'ils pensaient du livre de poche. Les Lettres françaises, c'est intéressant d'y rester quelques secondes. On sent bien un trouble. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal ? Donc ils lancent une enquête. Au fond, on va demander à nos lecteurs. Et puis ils publient les résultats et ils s'aperçoivent qu'il y a ambivalence. Le Mercure de France, avec Hubert Damiche, prend radicalement et violemment position contre. Je schématise, mais c'est à peu près, au fond, ce qu'on vient d'entendre avec ce jeune homme que l'on voit dans cette archive, d'ailleurs, puisqu'elle est filmée également, avec toute sa morgue, effectivement, de jeune homme qui appartient à une époque où le baccalauréat, c'était 2% des Français et qui ne veut surtout pas, évidemment, que 80% d'une classe d'âge vienne au baccalauréat. Alors, le livre de poche a suscité un véritable débat, probablement parce que on ne savait pas trop vers quoi cela allait.
Mais est-ce qu'on pensait que le livre de poche allait forcément être un livre au contenu assez populaire ou au contraire, est-ce qu'il y a cette idée que le livre de poche permet de publier et de donner accès à des livres plus littéraires comme justement Vol de nuit de Saint-Exupéry qui est un des premiers livres de poche lancés par Hachette?
En fait, on ne savait pas où on allait. On ne savait pas quels seraient les livres que le public allait plébisciter. On s'est vite rendu compte dans la décennie 60 où véritablement le livre de poche décolle, on s'est rendu compte que c'était vers les classiques que les Français se tournaient. À la fois les classiques récents, je pense à Jean-Paul Sartre et à Albert Camus, La Peste qui devient un best-seller de même que L'Étranger, Émile Zola. Émile Zola, qui avait été un best-seller de son vivant, mais qui était passé dans une sorte de purgatoire, redémarre véritablement avec des millions d'exemplaires. Donc on lit, au fond, on redécouvre les classiques, mais on les lit effectivement désormais dans toutes les classes sociales. Mmh. Alors, il faut ne jamais oublier que c'est aussi l'époque où le collège pour tous se généralise. C'est-à-dire que la masse des Français et des Françaises, désormais, non seulement sait lire, écrire et compter, mais est capable de naviguer dans les océans de la littérature.
Et donc, malgré les réticences de l'époque, on peut dire qu'il y a eu une vraie démocratisation de la lecture avec le livre de poche, Sophie de Closet.
Oui, bien sûr, et c'est évidemment une des meilleures nouvelles. Cette démocratisation-là, elle vient aussi avec un produit, le livre, un objet qui est d'un format extrêmement pratique, qui n'est pas très cher et qui est un des seuls biens culturels dont le prix tendanciellement n'a pas augmenté, voire a baissé depuis 30 ans, qui se retrouve dans des bibliothèques. On a un réseau de bibliothèques qui pourrait être encore plus étoffé et plein de choses pourraient être faites, mais qui permettent de mettre des nouveautés en grand format gratuitement à la portée de ceux qui le veulent. Donc oui, on est dans une démocratisation de la lecture, mais qui ne suffit pas forcément pour développer le nombre de lecteurs.
Et une démocratisation qui a aussi été permise par la loi Langue du 10 août 1981, qui garantit le prix unique des livres, avec cette idée aussi, Jean-Yves Mollier, que tous les Français, où qu'ils soient en France, auront accès aux livres au même prix.
Oui, alors la loi Langue, elle a une autre histoire. 3 ans avant la loi Langue, on était sous le septennat de Valéry Giscard d'Estaing, liberté totale des prix, donc l'arrêté Monory de février 1979 avait libéré en quelque sorte le prix du livre. Vous vous rendez compte comment les mots, à un moment, finissent par dire l'inverse de ce qu'ils sont censés signifier. Comme si la liberté, c'était le fait qu'on puisse pratiquer n'importe quel prix. Ça veut dire que la liberté, ce serait ce soir de mettre le prix Goncourt à 300 euros pour être sûr que seule une aristocratie pourra véritablement le goûter, le déguster et en parler.
Bah, on est dans un tournant économique néolibéral à cette époque-là.
Absolument, exactement. Donc, au fond, l'arrêté Monory, il est cassé par la loi Langue 3 ans plus tard. Et la loi Langue, elle va surtout permettre au réseau des libraires de ne pas mourir, de ne pas connaître le sort des disquaires, de ne pas disparaître de l'horizon, puisque la loi Langue, elle interdit de vendre avec un rabais de plus de 5%. Alors il y a eu une lutte homérique qu'on a oubliée aujourd'hui, avec à la fois la FNAC et les magasins Leclerc, qui sont allés pour tricher, pour tourner la loi, acheter les livres en Belgique pour les réexporter en France. Mais globalement, au bout de 5 ans, disons 1986, la loi Langue est entrée dans les mœurs, et même, elle s'est exportée. La plupart des pays de l'Union européenne ont adopté une législation comparable. Elle permet donc une assez grande stabilité. Et là, je me tourne vers Sophie de Closet, mais je pense qu'elle protège les éditeurs.
Évidemment.
D'une certaine manière.
Sophie elle protège les éditeurs et elle protège aussi les libraires. Et de fait, on a un écosystème incroyablement favorable en France pour le livre. Et on mesure pour le coup, dès qu'on voyage un peu, notre chance avec un réseau de libraires et libraires indépendants qui souffrent souvent, mais qui malgré tout sont aidés par la loi langue, mais aussi par un certain nombre de dispositifs régionaux, nationaux, qui les aident et qui nous permettent d'avoir une économie de l'offre, puisque l'édition, c'est une économie de l'offre et pas de la demande. On produit chaque année des nouveautés et des prototypes.
En espérant qu'ils trouvent leur public.
Que personne n'attend et dont on espère que tout le monde les trouvera. Et qui sont soutenus en ça par des libraires. Et ça, au moment du digital, et j'anticipe un peu sur votre chronologie, je suis désolée, mais c'est d'autant plus important parce que quand vous allez sur dans une librairie en ligne, généralement, vous repartez avec le livre que vous êtes venu y chercher. Vous avez un algorithme qui, fondé sur vos pratiques, vous dit ceux qui ont acheté, ont acheté. Mais la pratique et l'expérience qu'on a en librairie, où vous repartez avec un livre dont vous ignorez même qu'il existait avant, où vous êtes venu pour acheter un livre de Jean-Yves Mollier, et puis tout à coup, vous le prenez, et puis évidemment, mais ensuite, vous voyez un livre de recettes, ou un album de jeunesse, ou le libraire, vous l'entendez recommander tel roman islandais qu'il a tellement aimé, et vous partez avec tous ces livres-là, ou pas, ou certains d'entre eux. Cette expérience-là, c'est une expérience unique que la librairie offre et que la librairie en ligne n'offre pas. Et c'est ça qui sous-tend cette économie de l'offre et ce côté saltimbanque dont on parlait au début de l'émission qui est indispensable pour que le secteur continue à exister.
Jean-Yves Mollier.
Oui, tout à fait d'accord avec Sophie de Closet, en ajoutant simplement des chiffres dans leur trivialité. La librairie indépendante aujourd'hui, c'est 18,5% du chiffre d'affaires. Vous avez donc globalement un peu plus de 20% qui est fait par les grandes surfaces, un peu plus de 20% qui est fait par les grandes surfaces culturelles du type Fnac ou magasin Leclerc. Et puis, vous avez la vente en ligne également, un gros bloc de 20 ou 21%. Et puis, le reste, ce sont des miettes. Vous voyez que les choses ont donc bien changé. Ça veut dire que ces centaines et même ces milliers encore, ou ce millier de librairies qui existent en France, il faut le défendre parce que il permet ce contact avec le lecteur, avec l'acheteur qui effectivement ne sait pas, en règle générale, avec quel livre il va ressortir. Mmh. Il vient avec une idée en tête, nous avons tous fait l'expérience, et il ressort avec autre chose. Et c'est ça qui permet, au fond, à l'écosystème de ne pas disparaître.
Il y a ce rôle prescripteur, avant de vous interrompre, Jean-Yves Mollier, mais ce rôle prescripteur du libraire, mais il y a aussi le rôle prescripteur des médias. Ça, c'est quelque chose qui s'est énormément développé. Pareil, dans cette époque, des années 50-60, qu'est-ce que ça a changé au milieu de l'édition?
Alors, il faut distinguer probablement l'époque actuelle et l'époque qui nous a précédés. Au fond, de la fin du 19e siècle jusqu'à la fin du 20e siècle, chacun d'entre nous faisait confiance à un certain nombre de grands prescripteurs. Ça pouvait être Albert Thibaudet, pour citer, jusqu'à, au fond, Bernard Pivot, avec apostrophe et bouillon de culture. Les choses ont changé aujourd'hui. Il y a toujours des critiques de livres dans les quotidiens, il y en a dans les hebdomadaires, il y en a dans les mensuels. Mais les éditeurs constatent que, au fond, l'offre, ou plutôt l'effet sur l'achat, est de plus en plus réduit.
Et la place des livres dans les médias est de plus en plus limitée. Je pense que depuis les années 80, on n'a jamais eu aussi peu de place pour les livres à la télévision publique, ce qui pour moi est un vrai scandale. C'est-à-dire que les écrivains sont évidemment, il y a la grande librairie de François Bunel qui est un espace sanctuarisé dont on bénit ciel qu'elle existe, mais malgré tout, les écrivains sont appelés à faire dans des émissions d'infotainment qui vendent des livres, sont appelés à venir comme témoins ou comme intervenants dans des débats de société. Mais le livre en tant que tel n'a jamais eu aussi peu de place à la télévision. Et c'est quelque chose dont on souffre beaucoup. Heureusement que Radio France existe.
L'époque d'apostrophe et de Bernard Pivot vous semble déjà loin en termes de pouvoir prescripteur de que cette émission pouvait entraîner?
Oui, alors parce que aussi la télévision compte moins de téléspectateurs, ça c'est sûr, et parce que les relais de prescription se sont éclatés. C'est-à-dire que l'émiettement du public des différents médias, on le ressent dans les livres, et puis il y a aussi de plus en plus une demande de chacun cherche plutôt son prescripteur ou ses prescripteurs. Par exemple, les avis de lecteurs sur les sites de vente en ligne ou sur les sites comme Babelio sont extrêmement recherchés prescripteurs. Les petits mots des libraires, les blogs, les influenceurs, les critiques, tout est important et tous ces petits ruisseaux forment la rivière de la prescription. Mais on peut plus vraiment dire, avant, un auteur chez Pivot, il fallait tout de suite lancer la réimpression et il y avait des tables chez les libraires hier chez Apostrophe. Aujourd'hui, hélas, ça n'est plus aussi fort.
C'est une médiatisation qui a en tout cas permis ou entraîné, on va voir si c'est positif ou négatif, le fait qu'il y a de plus en plus de titres aujourd'hui, Jean-Yves Mollier, le fait que les éditeurs se mettent à publier de plus en plus.
Alors, il y a deux aspects. Sur le premier aspect, la multiplication des prescripteurs, ça peut être après tout un effet de la démocratie. Chacun veut, à un moment, Andy Warhol disait être célèbre pendant un quart d'heure, et bien chacun veut être prescripteur pendant un quart d'heure. Pourquoi pas ? Là, de ce point de vue-là, ça ne me choque pas du point de vue de l'extension de la démocratie. Mais pour prescrire un livre, il faut avoir un certain nombre, au fond, il faut avoir un background, comme on dit, c'est-à-dire connaître un petit peu les antécédents. Donc, de ce point de vue-là, ça pose un certain nombre de problèmes. Et la grande crainte, c'est que le marché se substitue à la prescription de qualité. Le critique littéraire, on pouvait ne pas l'aimer, on pouvait considérer que vraiment il était de mauvaise foi, de parti pris. Mais il avait fait des études, il avait lu des milliers et des milliers de livres, il passait son temps à lire. Un critique littéraire à l'époque, enfin il y a 20 ans, c'est quelqu'un qui lisait 2 livres par jour. Donc il y avait quand même un savoir accumulé. Mmh. Aujourd'hui, si c'est le marché, c'est-à-dire si c'est Monsieur Google, c'est-à-dire l'algorithme de Google, qui décrète que parce que 32 lecteurs sont venus, on met 32 étoiles, là, évidemment, il y a un risque majeur.
Des bouleversements, en tout cas dans le monde de l'édition, sur lesquels s'est exprimé l'éditeur André Chiffrin.
On peut dire sans crainte que l'édition mondiale a davantage changé au cours des 10 dernières années que pendant le siècle qui a précédé. Ces changements sont particulièrement frappants dans les pays anglo-saxons qui apparaissent comme des modèles de ce qui risque de se produire ailleurs dans les prochaines années. Jusqu'à une époque récente, l'édition était fondamentalement une activité artisanale, souvent familiale, de petite échelle, qui se satisfaisait de modestes profits provenant d'un travail qui était encore en liaison avec la vie intellectuelle du pays. Ces dernières années, les maisons d'édition ont été achetées les unes après les autres par de grands groupes internationaux. En Angleterre et en Amérique, la plupart de ces conglomérats sont d'immenses holdings, régnant dans le domaine des mass médias, de l'industrie du divertissement ou bien de ce que l'on appelle maintenant les industries de l'information. L'édition a été couchée sur le lit de Procuste et obligée de se couler dans l'une ou l'autre de ces options. Les maisons achetées par les groupes impliqués dans le divertissement ont été peu à peu amputées de leurs ouvrages sérieux ou destinés à l'enseignement. Quant aux groupes centrés sur l'information, ils ont eu tôt fait de se débarrasser des maisons, publiant des livres d'intérêt général.
Voilà un extrait de l'édition sans éditeur, ouvrage écrit en 1999 par André Chiffrin, grande figure de l'édition disparue en 2013. Ce que dénonce ici André Chiffrin, Jean-Yves Mollier, ce sont les conséquences sur la qualité des livres du rachat de nombreuses maisons d'édition par de grands groupes comme Lagardère ou Havas.
Pour bien comprendre, André Chiffrin, c'est le fils de Jacques Chiffrin. Son père était français. Il était juif, il a dû quitter la France au début des, fin 40, début 41 et partir aux États-Unis. André Chiffrin a succédé à son père dans une maison d'édition extraordinaire, Pantheon Books. Cette maison, elle a été rachetée à un moment. Et en 1991, Chiffrin quitte, il fait une conférence de presse pour expliquer pourquoi il abandonne son poste de directeur. Il dit « Je ne peux plus faire de l'édition comme j'en ai fait, comme mon père en a fait antérieurement. » Car ce ne sont plus des groupes industriels avec une logique industrielle qui sont à la tête des maisons d'édition, ce sont des groupes financiers qui décrètent qu'il faut un chiffre d'affaires à 2 chiffres, c'est-à-dire 11 ou 12% par an. Et il dit « Ça, je ne sais pas faire. » On l'a parfois accusé à tort d'être je ne sais pas quoi, un anarchiste ou un gauchiste, ce qu'il n'était nullement. Il explique dans son livre « C'est moi qui ai fait le rapport pour le Centre National du Livre en 1999 et qui ai permis que ce livre soit édité avec subvention. » Qu'est-ce qu'il explique ? Il explique que l'éditeur a toujours voulu gagner de l'argent. Parce que s'il ne gagne pas d'argent, il met la clé sur le paillasson. Donc c'est pas le principe du profit qui est en cause. C'est le changement d'une logique industrielle. Une entreprise pouvait grossir, elle pouvait racheter des filiales, mais elle conservait comme objectif de demeurer une entreprise produisant effectivement des livres. À partir du moment où on fait uniquement du chiffre, eh bien, on se transforme. Si vous me permettez d'être un peu plus long, regardez ce qu'il est advenu du numéro 2 français d'aujourd'hui, Editis. Il y a 20 ans, en 2002, il s'appelait Vivendi Universal Publishing et il appartenait effectivement à Vivendi. Jean-Marie Messier était parti aux États-Unis, son aventure, hein, c'est un peu l'histoire de Perrette et le Potolet, elle s'écroule. Tout d'un coup, VUP est mis à l'encan. C'est Jean-Luc Lagardère qui propose de racheter. Et puis, il y a un conflit avec la Commission européenne, je simplifie. En 2004, la Commission européenne autorise Hachette à reprendre 40% de VUP et les 60% restants vont devenir Editis. C'est le baron Sellière, qui n'a jamais travaillé dans le milieu de l'édition, qui rachète Editis. Et puis 4 ans plus tard, il vend à Grupo Planeta un groupe espagnol. Et puis maintenant, Grupo Planeta vient de revendre à qui ? À Vivendi.
Donc on voit ce phénomène de concentration et ce passage d'une logique industrielle à une logique financière. Sophie de Closette, votre avis sur les critiques que a pu formuler André Chiffrin, vous qui êtes directrice de Fayard, je le rappelle, qui avait d'abord été rachetée par Hachette, puis par Lagardère.
Ouais, enfin ça a été, en effet, comme vous l'avez dit, c'était un rachat dans les années dans les années 50. Donc oui, ce que dit André Chiffrin, c'est vrai d'une partie de l'édition aux États-Unis, et c'est son expérience propre, c'est-à-dire qu'en effet, comme l'a dit Jean-Yves Mollier, il a plus été en mesure à la tête de Pantheon Books de mener un petit éditorial qui était la sienne. En France, les groupes, en tout cas pour ce qui est d'Hachette, qui est le groupe que je connais maintenant très bien, sont des groupes industriels qui n'ont pas du tout une logique de rentement purement financière. D'ailleurs, dans le groupe Hachette, comme l'a dit Jean-Yves Mollier, chacune des maisons qui a été rachetée conserve non seulement son identité, mais il n'y a même pas d'économie d'échelle. C'est-à-dire que ce sont des maisons au sens propre. On ne se dit pas, il y a certes des marques, Fayard, Grasset, Lattès, Calman Lévy, etc. Mais en gros, on rationalise tous les services qui pourraient être rationalisés. Chaque maison conserve son équipe, quitte à ce qu'elle puisse paraître d'un point de vue purement financier et comptable doublonnée, conserve son identité, conserve son équipe. Et c'est essentiel pour que l'ensemble marche et soit prospère. Quant au fait que des grands groupes puissent, le fait d'appartenir à un grand groupe puisse nuire à la qualité des livres, ça vraiment c'est l'inverse de l'expérience que moi je peux faire, puisque au contraire, la puissance d'un groupe, d'être adossé à un groupe comme le groupe Hachette, permet de pouvoir envisager des projets au long terme, des œuvres complètes sur 12 volumes.
Des projets éventuellement plus risqués.
Du séminaire d'Alain Badiou en 17 tomes ou en 16 tomes sur 8 ans permet aussi d'avoir une péréquation assez large et de publier à la fois des livres qui sont en effet des livres de large diffusion, en tout cas qu'on escompte comme tel, et puis à côté de ça, des livres de recherche et des livres en histoire, en sciences humaines, en musicologie, extrêmement pointus, que l'édition américaine en effet ne fait plus. La diversité qu'une maison comme Fayard propose en une année n'existe pas dans aucune maison américaine.
Alors on arrive malheureusement presque à la fin de cette émission, c'est passé beaucoup trop vite, mais je voudrais vous entendre sur ce dernier point. Au mois de janvier dernier, Vincent Montagnier, le président du syndicat national de l'édition, et Xavier Mauny, président du syndicat de la librairie française, ont dénoncé la surproduction de titres. Et en effet, ce qu'on constate, c'est que les ventes reculent, mais le nombre de titres, lui, augmente chaque année. Vous parleriez d'une crise de la surproduction, Sophie Closet.
Jérôme Lindon disait que l'édition était le seul secteur qui répondait à une baisse de la demande par une explosion de l'offre. Et il n'a pas tort. Pour ma part, chez Fayard, on a réduit la production d'à peu près 30% en 5 ans. Et on s'en porte très bien.
Et parallèlement, un phénomène de best-sellerisation auquel on assiste, Jean-Yves Mollier, en quelques mots, est-ce que vous pourriez nous dire quels sont les nouveaux défis auxquels est confronté le secteur de l'édition, sachant que le livre numérique n'a pas provoqué l'hécatombe du livre physique redouté et qu'on assiste en même temps à un essor du livre audio depuis 2 ans. Et alors ça, c'est aussi un peu une nouveauté.
Avant d'y venir, moi je suis un peu moins optimiste que Sophie de Closet, mais c'est normal. Moi je suis simplement un observateur extérieur. Je ne travaille pas dans le secteur de l'édition. Les grands éditeurs à l'intérieur des grands groupes existent, et vous en êtes un exemple, avec une large part d'autonomie. C'est la tradition, avant vous, que Claude Durand, Jean-Claude Fasquelle et quelques autres ont pu maintenir. C'est donc vrai de la France, ça l'est beaucoup moins des pays étrangers.
Ah, je parlais pour ma part.
Bien sûr. Mais au-delà de ça, quels sont les véritables défis ? Les défis, ils sont de plusieurs ordres. Par rapport au numérique.
Rapidement, parce qu'on arrive vraiment au terme de l'émission.
Par rapport au numérique, vous dites qu'il n'y a pas effectivement d'explosion, mais on est quand même aujourd'hui à 8,5. On voit bien une progression constante, même si elle est lente. J'observe des changements qui peuvent être quand même très importants. Un certain nombre de conseils régionaux ont pris la décision de ne pas acheter de livres pour les lycées à la rentrée, mais d'offrir à tous les lycéens des tablettes. Mmh. Ça veut dire que les manuels rentrent dans les tablettes. Là, ce sont des changements qui, à terme, vont probablement provoquer je m'attends à des cataclysmes et peut-être même à des choses terribles dans le monde de l'édition scolaire. Il y a des défis, mais Nul ne peut dire effectivement vers quoi on ira. Aussi longtemps qu'il y aura des femmes et des hommes qui aimeront lire, il y aura de l'édition.
Un dernier mot très rapide sur les défis et peut-être notamment cette vente de droits aux producteurs de séries télé qui est en plein essor avec le succès croissant de Netflix, Sophie de Closet, qui peut être une source de profit dans le futur.
Ça fait très longtemps. Ça, pour le coup, ça fait longtemps qu'en effet la cession des droits audiovisuels, des droits à l'étranger, des droits sous toute forme d'adaptation est une source pour l'auteur comme pour l'éditeur.
Est-ce que c'est pas de plus en plus le cas?
Non, j'ai pas l'impression. Après, j'adorerais hein, que tout à coup la manne des grandes plateformes permette d'envisager une production éditoriale encore plus aventureuse et rentable.
Eh bien, en tout cas, un grand merci à tous les deux. Et c'est l'heure de retrouver Xavier Martinet et son journal de l'Écho. Bonjour Xavier.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Le président Emmanuel Macron vient d'arriver à Shanghai pour une tournée de 3 jours en Chine. Pour cette deuxième visite, l'Élysée met l'accent sur les relations économiques.
Avec d'abord la volonté de rééquilibrer les relations commerciales avec Pékin. Les échanges sont en hausse, mais la Chine est le plus gros déficit français, 29 milliards 800 millions d'euros. Le président est donc accompagné des dirigeants des plus grandes entreprises françaises, de BNP Paribas ou d'Airbus par exemple, également des représentants des PME. Le ministre des Affaires étrangères chinois avait déjà évoqué en cours de discussion une quarantaine de contrats. L'Élysée cite un probable accord sur la reconnaissance de 26 appellations géographiques protégées françaises par la Chine. Il y a aussi en discussion l'avancée de discussion sur une usine de retraitement de combustible. Mais la France se veut aussi la porte-parole d'un front uni européen pour obtenir là un autre accord autrement plus important à l'échelle européenne, accord sur les investissements chinois. Écoutez les explications du président d'Asia Centre, Jean-François Di Meglio, il est à Shanghai.
Grosso modo, ce ne sera pas de grands contrats, mais ce sera du concret, puisque le président Macron vient justement contre quelque chose qui s'appelle la foire à l'import. Et donc la Chine promeut sa position d'importateur, alors que la Chine est considérée comme un exportateur. Et c'est bien sûr le cas avec la France, avec un déficit qui pratiquement représente l'ensemble du déficit commercial français, puisque les autres pays le compensent, c'est de l'ordre de 30 milliards. Mais en fait, c'est un chiffre qui est purement symbolique. Dans la guerre commerciale, on parle beaucoup des déficits commerciaux, mais ce qui est important aujourd'hui, ce sont les flux de business qui incluent aussi les investissements. Et cette focalisation sur les déficits commerciaux, c'est une focalisation qui part vraiment pragmatique. Le vrai sujet, c'est ça. C'est effectivement le besoin de la Chine en termes de technologies qui vont lui permettre d'avancer et son besoin de trouver des partenaires qui soient à la fois fiables mais qui sachent se protéger en termes de propriété intellectuelle dans le saut technologique que la Chine veut faire d'ici 2025.
Car la France est aussi un des pays privilégiés des investissements chinois ces dernières années, Xavier.
Oui, c'était 14 milliards 300 millions d'euros entre 2000 et 2018. 9% des investissements arrivés dans l'Union européenne, des investissements chinois, des investissements qui permettent à des groupes de trouver un second souffle, mais qui peuvent aussi masquer un pillage technologique. Hein, c'était les mots de Bruno Le Maire. Les Allemands s'en inquiètent aussi. Et les 28 veulent un accord, ou plutôt les 27, sur la protection intellectuelle en cas d'investissement chinois. Angela Merkel, d'ailleurs, veut faire signer un traité l'an prochain, ce fameux traité au sommet Union européenne-Chine, au deuxième semestre 2020, donc.
On passe au bref, mais on reste en Asie avec l'offensive commerciale de la Chine envers les pays du Sud-Est. Offensive de charme avec le plus grand accord commercial du monde en vue.
Ce serait même le premier accord indo-pacifique et le plus grand accord de libre-échange au monde prévu pour 2020. 15 pays sont tombés d'accord ce matin. Les 10 de l'ASEAN, la zone de libre-échange sud-asiatique, et 5 économies majeures de la région. Le Japon, la Corée du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Vous me direz, manque encore l'Inde. Effectivement, Modi se méfie ouvertement d'un accord qu'il a qualifié de déséquilibré et injuste. Si elle le rejoignait, en tout cas, le RCEP, Partenariat Économique Régional Intégral, équivaudrait à 30% du PIB mondial, Tiffaine.
Et en Europe, le secteur de la tech de plus en plus politisé, avec en jeu la taxation des GAFA.
C'est ce que constate l'AFP à l'ouverture du Web Summit cette année à Lisbonne. Sont attendues notamment les prises de position de Margrethe Vestager, la commissaire à la concurrence, vice-présidente maintenant en pleine montée en puissance politique hein, au sein de l'Europe, appréciée pour son intransigeance taxe envers les grands opérateurs numériques américains, alors qu'une taxe internationale sur le chiffre d'affaires des GAFA est en préparation. C'est d'ailleurs le directeur du Centre de politique et d'administration fiscale de l'OCDE qui présentera aussi ses conclusions après avoir entendu les positions de la Maison-Blanche.
Et pour finir, 5 ans et 1,8 milliard d'euros pour construire les infrastructures olympiques en région parisienne. Début des travaux aujourd'hui en Seine-Saint-Denis.
Et oui, là, c'est la construction du village olympique à Saint-Ouen pour 15 000 athlètes. Projet olympique et projet de développement du département le plus pauvre de France, insiste le gouvernement, qui présente aussi un plan de 170 mesures en ce sens. Ainsi, les 51 hectares du site doivent être réhabilités en 3 000 logements d'ici 2025, même si des habitants protestent contre la destruction des actuels bâtiments, logements, résidences étudiantes, hôtels, foyers et une vingtaine d'entreprises qu'il faudra raser pour cela.
Et c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup Xavier Martinet et merci à vous Sophie de Closet et Jean-Yves Mollier de nous avoir permis de pénétrer dans le monde de l'édition tout au long de cette émission. Demain, ce sont les représentations de l'argent et du marchand dans la littérature que nous examinerons en compagnie de l'historien et professeur d'études théâtrales Martial Poirson. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast. On vous attend également sur Twitter sur le compte d'Entendez-vous l'écho.